Le mag de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec les ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires sur Radio Territoria.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du mag de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission consacrée au programme ADS et au DMAT ADS plutôt pour le nommer avec son nom en entier. Je vais y arriver et évidemment, qui dit programme DMAT ADS dit avec nous le grand Manitou de ce programme ADS, Jean-Baptiste Lannes. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Johanna.
On va quand même le redire un peu plus sérieusement. Vous êtes le directeur du programme DMAT ADS, le programme de dématérialisation de l'application du droit des sols. Et à vos côtés, on retrouve comme toutes les deux semaines Michel Félep. Bonjour Michel.
Bonjour Johanna.
Vous êtes chargé de mission animation territoriale DHUP DGALN et vous répondrez aux questions de nos auditeurs en fin d'émission. Alors je vous le disais, aujourd'hui nous allons reparler du programme DMAT ADS, une émission que nous allons d'ailleurs tout particulièrement dédier à vous, auditeurs qui nous écoutez, puisque nous allons parler de l'actualité du programme, mais aussi prendre le temps de répondre à vos questions qui sont de plus en plus nombreuses, n'est pas pour déplaire à Jean-Baptiste.
Ah oui, tout à fait. On s'aperçoit qu'on a de plus en plus de questions. Alors, on en a lors des émissions du MAC de l'urbanisme, mais on en a aussi sur les différents canaux de communication que nous ouvrons auprès de l'ensemble de nos partenaires. Et c'est globalement, ça montre que, j'allais dire, la mayonnaise prend et qu'on a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par le sujet et qui s'en préoccupent. C'est positif, mais ça montre aussi qu'on se rapproche de l'échéance du 1er janvier 2022. Dans quelques jours, on sera exactement à un an de cette échéance.
Effectivement, ça va venir très vite, mais les questions, ce sera dans un second temps. D'abord, on va démarrer avec vous, Jean-Baptiste, et avec votre décryptage. C'est parti.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, l'invité du MAG.
Et donc, Jean-Baptiste Lannes est aujourd'hui notre invité, notre expert, pour répondre à toutes vos questions, vos interrogations sur le programme de dématérialisation, DMAT ADS. Jean-Baptiste, la loi Elan, vous avez parlé de cette échéance du 1er janvier 2022, elle rend obligatoire donc la dématérialisation de la chaîne d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme pour toutes les communes de plus de 3500 habitants, on le rappelle, et elle doit aussi permettre aux usagers qu'ils souhaitent de déposer leur permis de construire en ligne. Transition avec le thème de l'émission d'aujourd'hui qui arrive et qui est là, puisque avant de répondre aux questions de nos auditeurs, nous allons nous intéresser aux bénéfices de la dématérialisation pour les usagers, qu'on appelle aussi les pétitionnaires en ce qui concerne les demandes d'autorisation d'urbanisme. Alors Jean-Baptiste, quel est le sens de cette démarche de dématérialisation pour les usagers?
Alors nous l'avons déjà évoqué ensemble sur cette antenne. On l'a abordé rapidement tout au début et donc c'est bien de pouvoir y revenir peut-être de manière un peu plus approfondie. La démarche du programme DMAT ADS et puis plus globalement ou plus génériquement de la loi Elan, c'est un certain nombre de transformations au profit de l'usager. La première, c'est l'amélioration de la qualité de service pour les usagers en leur permettant désormais, je veux dire à partir du 1er janvier 2022 ou avant pour les communes qui anticiperaient, de déposer leur demande d'autorisation d'urbanisme par voie dématérialisée. Le deuxième sujet, c'est la modernisation en regard de l'administration pour permettre ces nouveaux usages du numérique. Un troisième avantage, c'est une plus grande transparence de l'instruction et de l'avancement de cette instruction pour l'usager. Ça la permet de donner de l'information au fur et à mesure de cette instruction, si la collectivité le souhaite, évidemment. Et cette transparence va dans une meilleure fluidification des relations entre l'usager et l'administration, et en particulier la collectivité. Le dernier point, mais je le rappelle parce que c'est quand même tout bête, mais ça permet une simplification, une généralisation de l'accès des usagers, donc des pétitionnaires, aux services publics, puisque ça permettra de constituer et déposer ces demandes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. et les usagers ne seront pas soumis aux obligations ou aux ouvertures du guichet pour constituer et déposer leur demande.
On est évidemment d'accord pour dire que tout ça, c'est dans l'air du temps, c'est même presque une nécessité. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'un pétitionnaire ne pourra plus déposer son dossier directement en mairie et qu'il sera obligé de passer par Internet ?
Alors, c'est une question convenue entre vous et nous, parce que vous connaissez la réponse, et nous connaissons la réponse, mais on préfère la répéter. Non, bien évidemment, le pétitionnaire reste libre de déposer sa demande papier. Il n'y a aucune obligation pour le pétitionnaire, je le répète. Il peut déposer ou envoyer par la poste sa demande papier au guichet. Ça, c'est important de le rappeler. Et c'est à la collectivité, donc à la commune et au centre instructeur, de gérer ce double flux.
Est-ce que ça risque pas de poser des soucis, le fait de dématérialiser toute cette démarche ? Est-ce que les utilisateurs auront vraiment envie de le faire en ligne ? Ça peut des fois paraître un peu complexe, il faut remplir le CERFA, constituer le dossier avec toutes les pièces qu'on demande. Est-ce que c'est finalement pas plus simple pour les usagers de se rendre en mairie et de se faire aider par un agent ?
Alors, c'est une question, il y a vraiment deux questions. Donc, est-ce que c'est plus complexe de le faire de manière dématérialisée que papier ? Donc ça, j'y reviendrai dans un deuxième temps. Et puis, est-ce que ça va empêcher que le pétitionnaire se déplace en mairie avec son dossier et essaye de se faire accompagner ? Je vais répondre à cette dernière question en premier parce qu'elle est vraiment essentielle. Si nous dématérialisons... Et si nous essayons de gagner en efficacité, en particulier en supprimant des tâches de ressaisie ou des tâches de manipulation de dossiers, de photocopie, d'affranchissement, de gestion de courrier, etc., ça va faire gagner du temps aux différents services de l'administration et en particulier au centre instructeur et au guichet. Et on espère bien que ce temps sera réinvesti dans l'accompagnement des usagers et dans la relation des usagers. Vraiment, ça fait partie des objectifs et c'est des objectifs qui sont partagés par toutes les parties prenantes. Donc, pour le coup, on espère qu'on va aboutir à ça, parce que les centres instructeurs ont véritablement envie, et les agents ont véritablement envie de pouvoir mieux accompagner. Ça leur fera gagner du temps, et ça fera gagner du temps à tout le monde. Le deuxième sujet, c'est sur la facilité de constituer son dossier. On y reviendra, puisqu'on vous avez interviewé Madame Le Hideux, directrice adjointe de la DILA. Donc ça serait intéressant qu'on revienne sur le service ADO qui est mis en production. Mais je vais quand même vous donner des éléments de réponse. À l'heure actuelle, quand vous faites une demande d'autorisation d'urbanisme, si vous faites un projet un peu important, la majorité, voire l'intégralité des pièces, elles auront été constituées sur un ordinateur. Donc, nativement, elles seront numériques. Ce sont des plans d'un architecte, ce sont des notes architecturales, et y compris le CERFA, parce que vous irez sur servicepublic.fr, et puis vous allez trouver le CERFA inscriptible, et vous allez le renseigner. Donc tout ça, ce sont des pièces qui sont déjà numériques. Donc plutôt que d'avoir à les constituer papier, vous avez déjà forcément sur votre ordinateur, voire sur votre messagerie Outlook, vous aurez votre petit dossier avec écrit dessus « La maison de mes rêves »,« Villa ça me suffit » ou « Home sweet home ». Donc c'est clair que vous avez déjà à avoir ça. Donc votre dossier, vous allez déjà le constituer sur votre ordinateur de manière numérique. Ça permet de mieux gérer les versions en plus. Hein. S'il y a des évolutions, bah, vous remplacez des versions. C'est beaucoup plus simple que d'avoir à finalement modifier des versions papier. Bon, ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'avant, les photographies, on les faisait éditer chez le photographe. Mais maintenant, les photographies, vous les avez directement sur votre smartphone. Vous photographiez l'environnement, la localisation. Et vous avez même un architecte qui peut même insérer sa maquette sur, en tout cas, son plan. Sur sa façade, sur la photo que vous avez prise. Donc, globalement, vous avez quand même un dossier qui est majoritairement sur des demandes un peu complexes, qui est numérique. Donc, ça voudrait dire l'imprimer pour pouvoir, après, le déposer. Là, vous pouvez très bien le joindre sur un document, sur une demande dématérialisée. Ça, c'est un premier sujet, mais le papier, c'est pas mal, mais ça a pas mal d'inconvénients aussi, au sens où le premier, c'est que quand vous faites une demande d'autorisation d'urbanisme, il faut la remettre, si vous la remettez papier, en plusieurs exemplaires. Je ne parle pas des sujets écologiques, qui sont très à la mode en ce moment, hein, qui sont beaucoup d'actualité, mais clairement, ça veut dire avoir une reprographie, et puis si vous avez des pièces un peu grandes, c'est des reprographies qui peuvent coûter cher, pour que si vous êtes en plus dans des endroits où vous pouvez avoir un certain nombre de contraintes, beaucoup de services qui seront consultés, les architectes des bâtiments de France, vous pouvez avoir un nombre important de demandes de copies, donc ça devient compliqué si vous voulez, c'est un coût, tandis qu'avec le dossier numérique, vous l'avez une fois, le recopier, c'est pas un problème et ça sera pas un problème dans le dispositif qu'on met en œuvre. Le deuxième sujet aussi qui est important, c'est que quand vous allez remplir votre CERFA, alors déjà, il faut trouver le bon. Hein, ça, c'est un vrai sujet, puisque vous avez plusieurs CERFA. Ça peut être une DP, une DPMI, un PC, une PCMI. Bon, je prends les cas les plus classiques, mais ça, c'est un premier sujet. Et puis, ce sont des CERFA qui sont un peu compliqués, donc qu'il faut remplir, voilà. Et il faut vous référer à la notice. La notice, elle fait 50 pages. Donc, si vous pouvez l'avoir, j'allais dire, en même temps que vous tapez, vous pouvez avoir des contrôles, vous pouvez avoir un certain nombre d'assistance que vous pouvez avoir en ligne, que vous n'aurez pas sur un CERFA papier. Donc vraiment, je pense que le dépôt numérique, je ne parle pas de problème d'électronisme ou de pas d'accès à l'informatif et ce genre, à l'informatique ou au réseau. Donc tout ça, effectivement, ça empêche le dépôt numérique. Mais si vous pouvez le faire de manière numérique, ça sera quand même beaucoup plus simple de le faire de manière numérique que de le faire papier. Bon, et donc... Le dernier sujet sur lequel je vais insister, c'est que quand vous faites un dépôt, quand vous le faites papier, ce qui se passe, c'est que il est possible que vous commettiez des erreurs. Donc commettre des erreurs, c'est ou des oublis. Donc quand vous le déposez numériquement, vous pouvez avoir des aides qui vous disent bah, « cette donnée, elle est obligatoire, ce champ, ça doit être une date, vous venez d'écrire, pas une date, mais un mot, donc il est refusé ». Et donc vous avez une assistance pour améliorer la qualité. J'ai déjà donné cette statistique, elle m'est confirmée à chaque fois que j'en discute avec des professionnels et puis avec des administrations, mais la non-qualité, c'est 30 à 50% des dossiers. 30 à 50% des dossiers, c'est énorme, ça fait perdre du temps à tout le monde. C'est chronophage dans les deux sens du terme. C'est chronophage parce que, d'une part, ça va prendre du temps et de l'énergie à tout le monde, et si ça prend du temps au centre instructeur, cette non-qualité, bah, c'est autant de temps qu'il ne pourra pas consacrer à une bonne instruction. Et le deuxième sujet, c'est que ça rallonge les délais, parce que si vous faites une erreur, il faut la rectifier, et tout ça, en plus, si vous le faites papier, c'est par des recommandés, etc., c'est vraiment extrêmement compliqué. Donc, je ne pense pas que la dématérialisation va nous faire parvenir à la qualité totale, mais honnêtement, tout ce qui permettra de réduire ce ratio de 30 à 50% de non-qualité permettra d'aller beaucoup plus vite.
Et alors, qu'en est-il des pétitionnaires professionnels comme les architectes, les promoteurs, les aménageurs ou même les entreprises qui déposent leurs demandes, les demandes plutôt pour leur compte, mais aussi pour ceux de leurs clients?
Alors, c'est intéressant parce que tous les gains que j'ai évoqués, ben, comme ils en déposent beaucoup, des demandes, en tout cas beaucoup plus qu'un particulier qui va en faire une de temps en temps. Là, les professionnels, eux, ben, ils ont l'habitude, et puis ça peut être des sujets qui sont relativement complexes. Donc les gains sont beaucoup plus importants pour eux. Néanmoins, comme ils déposent beaucoup de demandes d'autorisation d'urbanisme, ils se sont équipés, ils ont mis en place des procédures, ils ont investi pour que, j'allais dire, rendre leur chaîne de dépôt de demandes d'autorisation d'urbanisme la plus efficiente possible. Donc ça veut dire que s'ils veulent intégrer la dématérialisation, il faut qu'ils s'y prennent à l'avance, ils réfléchissent aux évolutions, et ça va peut-être leur demander un petit investissement. Mais globalement, on pense que ça va être très positif pour les professionnels. D'ailleurs, les fédérations professionnelles que vous invitez sur Radio Immo, par exemple, elles sont très, très motrices, elles sont très désireuses, elles demandent même à ce qu'on accélère la marche pour la dématérialisation.
Vous nous avez parlé tout à l'heure, Jean-Baptiste, des champs mal remplis ou sur lesquels les usagers particuliers, hein, notamment, peuvent être guidés. Concrètement, comment est-ce qu'ils vont pouvoir être aidés et guidés dans toute cette procédure en ligne?
Alors, on peut parler dès maintenant, hein, puisqu'il y a une annonce à faire, c'est que la solution ADO a été mise en production officiellement depuis le 9 novembre. Donc, comme vous le savez, on déploie une logicielle dite XXO, une suite logicielle dite XXO, donc avec plusieurs modules. C'est une série d'outils qui permettent demain de dématérialiser l'ensemble de la procédure d'instruction et puis de mettre en relation l'ensemble des parties prenantes. Et dans ce module, on a un module qui est important qui s'appelle le module ADO pour assistance à la demande d'autorisation d'urbanisme. Il est développé sur le portail service.com. Trait d'union public.fr, qui est réalisé, qui est conçu par la DILA et qui permet aux usagers de constituer leurs demandes en ligne.
La DILA, on va rappeler quand même ce que c'est, hein, parce
Excusez-moi.
Certains auditeurs peuvent avoir oublié, c'est la Direction de l'information légale et administrative. Et justement, on va parler de cette DILA, on va savoir comment on accède à ce tout nouveau service, ADO, et on va écouter pour cela le témoignage de Véronique Lehideux, elle est directrice adjointe de la DILA, et elle nous a expliqué comment il est désormais possible de constituer sa demande d'autorisation en ligne. On l'écoute, on en parle juste après. Bonjour madame.
Bonjour.
Pouvez-vous nous rappeler l'objectif du portail servicespublic.fr et pourquoi était-il pertinent d'y intégrer ADO ?
Oui, bien sûr. Donc, Service Public, c'est le site officiel de l'administration. Il a en fait deux missions principales. Sa première mission, c'est de permettre aux citoyens de connaître leurs droits et devoirs. Donc, c'est quelque chose que nous faisons au travers de fiches d'information qui sont souvent personnalisables. Et nous veillons tout particulièrement à ce que ces fiches soient présentées dans un langage simple et clair. Alors, il n'y a surtout pas de jargon administratif. Et on veille ensuite à ce qu'elles soient à jour des dernières informations et des dernières réglementations. Et puis, la seconde mission, c'est de faciliter la mise en relation du citoyen avec l'administration et en particulier celle qui va instruire sa démarche. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait de deux manières. Donc soit on renvoie vers les guichets physiques ou alors lorsque la démarche en ligne existe, eh ben on va faciliter la mise en relation en renvoyant directement donc sur le téléservice. Donc très souvent, en fait, c'est le site du ministère qui instruit la démarche vers lequel nous le renvoyons, mais il arrive aussi que la DILA développe en partenariat, et ça c'est souvent pour des démarches qui touchent un très grand nombre d'utilisateurs, ou quand on a déjà des bases techniques de la démarche pour pouvoir capitaliser, nous allons en fait s'appuyer sur ces travaux et développer donc directement la démarche avec le ministère concerné. Donc c'est, du point de vue de l'usager, l'avantage, c'est que lui, il aura un parcours qui va être le plus fluide possible jusqu'à la démarche. On va éviter pour lui d'avoir à revenir sur des écrans d'accueil. Il va avoir une information et aller directement sur la démarche en sachant en fait quelles sont les pièces jointes ou les documents qu'il doit avoir. Et puis pour la démarche elle-même, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va pouvoir bénéficier de la forte audience de services publics. Donc je suis assez fière d'annoncer qu'en fait, que pour services public qui a fêté ses 20 ans là en novembre, il a reçu un très très beau cadeau d'anniversaire puisqu'on a franchi les 4 millions de visites pour la première fois donc début décembre. Alors, pourquoi y intégrer ADO, vous me le demandiez? C'est très très naturellement que ADO a été fait en partenariat avec le ministère chargé du développement parce qu'il avait en fait complètement la même philosophie que celle que je viens de vous présenter pour service public, c'est-à-dire accompagner le citoyen, lui proposer des informations qui sont à jour. ADO est une démarche qui est complètement paramétrable et puis surtout le guider tout au long de sa démarche.
Pourriez-vous nous rappeler à quoi sert ADO et puis nous dire également quelle est sa valeur ajoutée pour l'usager ?
Alors oui, je pense que ce qui est important, c'est vraiment, il y a deux points que je voudrais mettre en avant. Le premier, c'était l'objectif d'amélioration et de la qualité des dossiers qui vont être faits pour les demandes d'urbanisme. Alors on sait que ce sont des démarches qui sont souvent caractérisées par le fait d'avoir de nombreuses pièces jointes et les dossiers peuvent être transmis incomplets, ce qui va finalement pénaliser à la fois les services instructeurs, mais aussi le demandeur qui va voir son dossier rejeté ou qui ne va pas démarrer dans le délai qu'il aurait souhaité. Donc je crois qu'un des points forts d'ADO déjà, c'est de lui permettre d'avoir la liste exacte de toutes les pièces jointes qu'il aura à fournir. Mais peut-être le point que je voudrais le plus souligner, sur lequel on a le plus travaillé avec la DHUP, ça a été notre volonté de simplifier la démarche de l'utilisateur tout au long de son parcours. Alors on a choisi de le faire surtout en fait sur les démarches qui sont les plus fréquentes pour lui. Donc c'est le cas des travaux pour les maisons individuelles et leurs annexes. Et là, le citoyen, il n'a plus besoin de lire la notice qui fait une plusieurs dizaines de pages. Il ne va pas s'arracher les cheveux devant les cases de son CERFA. En fait, on va lui poser des questions. Et il va être guidé par les questions pour caractériser son projet. Donc pour lui, c'est très rassurant. Et à chaque fois qu'il va répondre à une question, eh ben, ça va compléter de manière automatique son CERFA. Il peut le faire par étapes, il peut revenir dans la démarche. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été pensé pour être très très souple. Et puis un des points très très forts aussi de la démarche, et c'est le grand travail qu'a fait la DHUP. Je vous parlais tout à l'heure de l'importance d'avoir des informations de réglementation à jour. C'est que ce guidage, il est basé sur un moteur qui est complètement paramétrable. Et quand la réglementation change, ben on va pas remettre à la poubelle la démarche. Elle va pouvoir aussi évoluer au fur et à mesure. Donc, du point de vue de l'usager, vous m'interrogiez sur cet aspect. Je pense que ce qu'on peut déjà noter, même si la démarche a été expérimentale pendant un bon moment, hein, c'est qu'il y a déjà eu près de 30 000 visites, hein, sur la partie expérimentale, entre mars 2019 et novembre 2020, qu'on a eu 5 000 dossiers qui ont déjà été réalisés sur cette période. Et depuis le début du mois de novembre, où on l'a mis un peu plus en avant, la démarche sur service public, on a eu plus de 1200 dossiers qui ont été complétés. Donc, on trouve que c'est un très très bon démarrage pour la démarche. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, puisque on est très sensible à la manière dont les usagers ressentent la démarche, hein, c'est qu'on leur demande de la noter, et pour l'instant on a une note de satisfaction qui est de 4/5, donc c'est un très très bon résultat. Il va falloir qu'on le maintienne dans le temps, mais je pense que ça démontre que ça apporte un vrai plus pour l'usager. Donc lui, il est guidé, ça lui complète son CERFA, et il va pouvoir du coup l'imprimer et le transmettre avec l'ensemble des pièces jointes, puisqu'il a donc le listing qui lui permet de bien vérifier qu'il a bien toutes les pièces jointes à fournir qui seront dans son dossier.
Quelles sont les prochaines évolutions pour Ado?
Alors, je viens de vous parler d'impression. C'est vrai que ça peut paraître bizarre pour une démarche en ligne de dire « mais à la fin, j'imprime mon CERFA ». Donc, c'était effectivement une première étape, hein. L'étape sur laquelle on est en train de travailler, c'est la fonctionnalité de transmission du dossier sous une forme complètement dématérialisée. Donc, de notre côté, à la DILA, on s'appuie sur une technologie qui est celle des API, hein, qui est un espèce de gros connecteur qui va permettre, en fait, de transmettre le dossier de manière automatique. Donc, là, il y a un travail, effectivement, du côté de la DHUP pour que les dossiers puissent être transmis aux communes, hein, qui vont faire les instructions. Donc, c'est quelque chose qui devrait aboutir au premier trimestre 2021. Et la seconde évolution majeure, sur laquelle aussi les développements sont bien avancés, c'est ce qu'on appelle la co-validation. C'est-à-dire qu'on va offrir la possibilité, quand il y a des parties prenantes dans le dossier, alors ça peut être un tiers mandaté par le demandeur, ça peut être des co-demandeurs, ou ça peut être un architecte lorsque son avis est obligatoire, il va y avoir la possibilité pour lui d'intervenir dans la démarche et d'avoir une action de validation. Et là aussi, ce sont des travaux qui devraient aboutir en février 2021.
Merci beaucoup pour ces précisions.
Ben, je vous remercie.
Voilà pour le témoignage de Véronique Lehideux, qui est directrice adjointe de la DILA. Nous venons de l'entendre, hein, il est désormais possible de constituer sa demande d'autorisation d'urbanisme en ligne. Par contre, Jean-Baptiste, il n'est pas encore possible de la transmettre par voie dématérialisée depuis ADO, hein, n'est-ce pas ?
Non, pas encore. On y travaille. D'ailleurs, donc on y travaille avec la DILA, que je remercie. Et je remercie Madame Lehideux pour cette interview vraiment très claire, et puis qui montre le fait que l'État s'est vraiment mobilisé pour cette demande pour la dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme et s'appuie sur service-trade-union-public.fr qui est un vraiment très bel outil de bonne administration. Donc, alors, ça veut dire quoi pour aller c'est à la fin de la téléprocédure, ben, vous avez le CERFA qui est rempli, vous avez un bordereau avec la liste des pièces justificatives que vous devez fournir, et là, en fonction de votre collectivité, soit vous pouvez imprimer le bordereau et puis le CERFA, le signer et puis joindre les pièces justificatives et le déposer en mairie. Mais ça vous aura aidé, hein, je tiens à insister sur ce sujet, ça vous aura aidé à établir la liste des pièces justificatives, soit si votre collectivité dispose d'un guichet, ben vous pouvez déposer le CERFA de manière dématérialisée, le bordereau et joindre toutes les pièces justificatives. Donc voilà pour le moment. Mais très très vite, on va le raccorder, comme le disait Madame Lehideux. Le deuxième, ce que je voudrais préciser aussi, c'est qu'ADO n'est pas un vecteur obligatoire. On n'est pas obligé de constituer sa demande sur ADO. C'est un service qui est offert, mais les collectivités, il y a d'autres collectivités qui ont développé déjà des guichets pour déposer leur demande d'autorisation d'urbanisme. Et on vise, puisque l'investissement de l'État a été très important, on vise à rendre les téléprocédures des collectivités et ce qu'il y a sur servicepublic.fr le plus interopérable possible pour faciliter la vie du citoyen. Donc, pour nous, la mise en production d'ADO, c'est quand même une première étape de franchie pour le programme. Ça nous engage bien évidemment à poursuivre pendant toute l'année 2021. Et ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir permettre le plus rapidement possible le traitement numérique de bout en bout des dossiers par l'ensemble des acteurs de l'instruction.
On a commencé à en parler un tout petit peu tout à l'heure, mais on va revenir sur ce point. Est-ce que les collectivités qui seront prêtes avant le 1er janvier 2022 pourront d'ores et déjà recevoir et instruire des dossiers de manière dématérialisée ?
Oui, alors, c'est un sujet. Le cadre réglementaire existe, même si on travaille sur un projet de texte pour le rendre plus clair et plus serein, mais le cadre réglementaire existe. Il y a le code des relations du public à l'administration, plus le code de l'urbanisme. On arrive à dématérialiser. Il y a quand même beaucoup de collectivités qui l'ont fait. D'ailleurs, on travaille avec un certain nombre de collectivités dans des expérimentations pour qu'elle puisse se raccorder à plateau, le hub qui permet la télétransmission, la transmission et le partage des dossiers avec toutes les parties prenantes. Mais il faut dire qu'on n'est pas obligé d'être connecté à plateau pour commencer la dématérialisation. Donc il y a des collectivités qui ont déjà dématérialisé toute une partie de la chaîne de réception et d'instruction et qui se connecteront à plateau quand elles rentreront dans un dispositif plus industriel. Sur les expérimentations que l'on mène, ce sont quand même des chantiers très complexes avec un nombre important de parties prenantes et ça veut dire que ça prend un peu plus de temps qu'on l'escomptait. Mais on aboutit et on pense avoir nos premiers dossiers qui ont transité entre les collectivités et les directions départementales des territoires, j'allais dire dans les tout prochains jours. Donc on est quand même en avance par rapport à l'échéance du 1er janvier 2022.
Et parmi les expérimentateurs, hein, il y a notamment les collectivités. Nous avions entendu hein, lors de notre dernière émission, que vous pouvez évidemment retrouver en podcast sur le site de Radio Territoria, Nathalie Fourneau, qui nous avait partagé les résultats d'une enquête menée cet été avec l'Assemblée des collectivités de France, l'ADCF. Et dans la continuité de cette interview, nous avons interrogé Philippe Schmitt, qui est secrétaire général justement de l'ADCF, votre autre partenaire institutionnel au premier rang du programme. Il répond à trois questions que nous lui avons posées. On l'écoute, on se retrouve juste après. Bonjour Philippe Schmitt.
Et bien, bonjour.
Alors pourquoi l'Assemblée des communautés de France a-t-elle décidé de s'investir dans ce programme des maths ADS et plus largement dans le réseau urbanisme et numérique ?
Parce que l'ADCF a été promoteur d'une première grande évolution de l'urbanisme, à savoir le passage à l'urbanisme intercommunal, donc une évolution dans l'échelle et dans la gouvernance de l'urbanisme. Et il nous semble que tout cet aspect du numérique dans l'urbanisme est une seconde étape, un second virage qu'il faut prendre. Et pour nous, il revêt plusieurs dimensions. Alors bien sûr, la dématérialisation des autorisations d'urbanisme, bien sûr également la dématérialisation des problématiques foncières, des DIA notamment, mais également une entrée du numérique dans les méthodes de gestion et d'élaboration de stratégies pour les territoires. Et je pense notamment à tout ce qui est lié à la carte numérique, au BIM, tout ce qui est lié à l'exploitation qu'on pourra faire du géoportail. Bref, c'est tout un ensemble qui nous paraît être intéressant à appréhender, sous réserve qu'on ne le voit pas que sous un angle technique, mais qu'on lui donne un relief politique ou qu'en tous les cas, on permet l'appropriation politique de tout cela pour faire monter en gamme, si je puis dire, les mécanismes d'observation, le partage de ces observations avec les élus, l'appréhension du territoire de ces enjeux. Voilà. Et je terminerai en disant que le prochain mandat des élus locaux va s'organiser avec des enjeux nouveaux pour les territoires qui se sont exacerbés et qui vont eux aussi appeler pas mal de techniques. Je pense notamment aux enjeux d'adaptation au changement climatique, d'adaptation aux risques qui se sont, les risques naturels qui évidemment se sont beaucoup multipliés, mais également à beaucoup d'autres enjeux sur la sobriété foncière, sur les enjeux d'alimentation ou encore les enjeux de santé. Tout ça sont des sujets qui émergent ou en tous les cas qui se renforcent plus encore, et je pense qu'on aura besoin d'avoir laissé pénétrer le numérique dans nos pensées d'une manière générale sur les questions d'urbanisme. Voilà.
Selon vous, dans quelle mesure la dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme est une opportunité pour les communes de mutualiser leurs services d'instruction ?
Bon, la dématérialisation ne va pas en elle-même provoquer une évolution dans l'organisation des services instructeurs. Cette évolution, elle a déjà eu lieu il y a quelques années, notamment sous les effets de la loi Allure de 2014, et on a vu se créer dans une très grande majorité des communautés de communes, agglo et métropoles, des services mutualisés d'instruction par et pour le compte des maires qui continuent à délivrer. Donc, le sujet de la dématérialisation peut aider à fluidifier les relations entre la mairie qui reste le guichet unique et le service instructeur intercommunal, oui, sans aucun doute, mais ce n'est pas en soi lui qui va réorganiser ou impulser une réorganisation des services. Ce qui est important de comprendre sur cette dématérialisation, de mon point de vue, des autorisations d'Urba, c'est que elle peut, au-delà des éventuels coûts financiers, tout ça qui va des gains financiers qu'il pourrait y avoir, et encore faut être prudent là-dessus, je pense toutes les dépenses qui sont faites autour des affranchissements et autres volumes de papier très très importants qui circulent avec ces autorisations d'Urba, au-delà de cela, au-delà des enjeux matériels et logistiques, informatiques et de formation de personnel qui sont très lourds autour de tout ça. Eh bien, au-delà de ces enjeux-là, il y a certainement, à travers la dématérialisation des autorisations d'urbanisme, des évolutions culturelles qui peuvent être engendrées, de fluidité entre les différents services au sein d'une même communauté pour que des autorisations puissent être vues, même par des services environnement, les services fonciers, etc. On peut certainement avoir aussi, à travers la dématérialisation d'urbanisme, un gain dans les mécanismes d'observation et peut-être pouvoir justement partager avec les élus quand on va pouvoir, si vous voulez, parce qu'on aura renseigné l'ensemble de ces informations dans des SIG, avoir des capacités à mesurer les rythmes de construction, mesurer les localisations de toutes les déclarations ou autorisations qui sont faites, est-ce que c'est du neuf, de l'extension, etc. Voilà. Donc on devrait aussi s'en servir, si vous voulez, pour gagner peut-être du temps, et mettre ce temps, non pas uniquement dans de l'économie, mais peut-être utiliser ce temps agent disponible pour conforter, renouveler, repenser la relation entre la collectivité et le pétitionnaire. Voilà. Ça pourrait être une occasion de faire évoluer les métiers, de telle sorte qu'on utilise le numérique, non pas pour se distancier des pétitionnaires, mais au contraire pour gagner du temps et de la capacité de dialogue et d'intelligence avec eux. Parce que jusqu'alors, on peut le dire, l'instruction a souvent été dans des collectivités un peu le parent pauvre de l'urbanisme. Et peut-être que ce numérique, il peut redonner, justement, à travers cette nouvelle organisation, eh bien, peut-être il peut être une occasion de redorer le blason. Voilà.
Alors, 2021 approche à très très grands pas, hein, c'est dans quelques semaines, et ce sera une année charnière pour le programme et la préparation des collectivités territoriales et de leurs communautés, hein, à la mise en application de la loi Élan. Quel rôle entendez-vous jouer pour les accompagner concrètement ?
Bon, concrètement, nous n'avons pas de capacité technique particulière. Ce n'est pas nous, réseau national de collectivités, qui allons pouvoir techniquement accompagner dans les solutions locales, etc. En revanche, notre rôle, et nous le remplissons, notamment aux côtés de l'AMF, parce que sur ce sujet, la DCF, Intercommunalité de France et AMF sont plutôt en cheville, et on est tous les deux parfaitement engagés aux côtés de l'État là-dedans. Notre objectif est déjà de sensibiliser, presque dans certains territoires, d'alerter, parce qu'on a vu quand même que encore pas mal de territoires sont dans l'ignorance un peu des obligations qu'ils vont devoir respecter à la fin de 2021. Et on est donc déjà désireux de favoriser les échanges, favoriser les explications, et on multipliera, et il y en a déjà un, vous voyez, même la semaine prochaine, on multipliera les webinaires, les rencontres, les ateliers, etc., entre communautés, pour que cela progresse, oui. Voilà.
Eh bien, merci.
Tel est notre objectif.
Un bel objectif, en tout cas. Merci beaucoup pour vos réponses.
Je vous en prie. Je vous remercie. Merci.
Voilà pour le témoignage de Philippe Schmitt, secrétaire général de la DCF. Alors Jean-Baptiste, nous pourrions encore parler très 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 longuement du programme DEMAT ADS, mais il nous reste 10 minutes d'émission et on va plutôt le consacrer à tenir notre promesse, qui est celle de répondre aux questions de nos auditeurs. Évidemment, vous restez bien avec nous. On va retrouver Michel, c'est tout de suite.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, on répond à vos questions.
Alors Michel, je suppose qu'on a encore pas mal de questions ce matin sur ce programme DEMAT ADS.
Oui Johanna, on a plusieurs questions et donc une intervention en particulier de William, enfin deux interventions de William en fait. Il y a à la fois une demande et une question. En ce qui concerne la demande, William nous dit que la page du téléservice sur servicepublic.fr mentionne que le dossier sera transféré à la commune si celle-ci est raccordée sans plus de précision, et que donc plusieurs pétitionnaires contactent les services instructeurs pour vérifier que leur dossier saisi sur le téléservice est bien parvenu au service instructeur. Donc je comprends ça comme une demande de vérifier ou peut-être de préciser un petit peu plus les choses sur la page servicepublic.fr.
Alors, merci William. Il n'est pas le premier, effectivement, avec l'augmentation évoquée de l'usage évoqué par Madame Le Hideux, on s'aperçoit que cette formulation reste somme toute interprétable, et donc il faut qu'on puisse qu'on soit plus explicite. Donc je vais faire remonter cette information à nos collègues de la DILA et pour qu'on trouve une formulation qui soit plus adéquate.
Merci Jean-Baptiste. Et la deuxième intervention de William, c'est donc une question. Il nous demande si l'outil ADO fera double emploi avec les téléprocédures que développent les communes avec leur éditeur de logiciels.
Alors, double emploi, si je parle urbanisme informatique, et non pas urbanisme classique, mais urbanisme informatique, ce sont les mêmes fonctionnalités de constitution et puis demain de dépose, donc en tout cas d'une partie de la dépose. Donc oui, effectivement, on peut considérer que ça fait double emploi. Notre objectif, c'est que si on peut enrichir ce qui a été développé par les éditeurs de solutions informatiques avec notre capacité à avoir finalement mis la réglementation et cette approche très orientée utilisateur, on le fera sans problème. Et puis les éditeurs de solutions informatiques généralement s'intègrent au portail les portails de services qui sont proposés par les collectivités. Ils le font alors que nous ne le faisons pas. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un portail avec la petite enfance, la restauration scolaire, l'état civil et les demandes d'urbanisme. Si vous êtes un habitant, vous avez déjà un certain nombre d'informations, vous n'êtes pas obligé de les remettre dans les demandes d'autorisation d'urbanisme. Vous avez finalement une facilité d'usage. Nous, on ne le fait pas. Et ça veut dire aussi, pour être extrêmement clair, que quand ADO sera raccordé à Plateau, ADO va transmettre le dossier donc à Plateau, et par rebond Plateau le transmettra à la collectivité qui sera raccordée, qui sera abonnée à cette fonctionnalité. Et il faudra au pétitionnaire suivre son dossier sur le portail de la collectivité et non pas sur service-public.fr, qui n'est que finalement la toute première étape de constitution de la demande. Le suivi de la demande, la gestion de la relation avec le guichet unique, la collectivité, éventuellement le centre instructeur, la lettre du premier mois, la décision, etc., tout ça sera géré directement par le guichet unique. Parce qu'il faut le rappeler, ce sont les collectivités et les communes qui sont responsables de l'application du droit des sols dans la majorité des cas.
Ok, alors nous avons une question de Bernard qui pose des questions sur Rio. Il demande où en est le développement de Rio. Est-ce que les actes transmis par Rio, donc pour les communes au RNU, devront être intégrés dans Plateau? Et si oui, comment se fera ce transfert? Est-ce qu'on peut déjà rappeler rapidement ce qu'est Rio?
Alors Rio, c'est une application que l'on va développer pour les communes qui n'ont pas de PLU, donc qui sont au règlement national de l'urbanisme. Et ce règlement national impose que l'instruction des dossiers soit réalisée par la direction départementale, concernée. Donc ce sont généralement des petites communes qui n'ont pas de PLU, évidemment. Et donc c'est la DDT qui fait l'instruction. Et globalement, les communes ne se sont jamais dotés d'outils. Il n'y a pas forcément beaucoup de demandes d'autorisation d'urbanisme sur ces communes. Donc il n'y avait aucun intérêt puisque la DDT faisait l'instruction. Dans la politique du programme DEMAT ADS, on s'est dit qu'on n'allait pas les laisser de côté et ne pas s'en occuper, même si l'échéance de la loi Elan concerne les communes de plus de 3500 habitants et il n'y a pas de communes qui soient historiquement au RNU de plus de 3500 habitants, même j'allais dire que les communes au RNU de plus en plus disparaissent, hein, y en a de moins en moins, et celles qui restent sont vraiment des communes de très petite taille. Donc on s'est dit quand même qu'il fallait qu'on puisse proposer des outils de dématérialisation. Donc ce que l'on a fait, ce que l'on a pensé plutôt pour le moment, c'est de développer un outil de guichet qui permet d'outiller la relation entre le pétitionnaire et la collectivité. Ça sera donc un outil qui sera proposé pour les communes au RNU. C'est un outil absolument gratuit. C'est une proposition, on ne va pas l'imposer. La collectivité doit pouvoir à un moment utiliser cet outil. Si elle ne veut pas le faire, on ne va pas l'obliger. Ce qui permettra que certaines demandes par l'intermédiaire justement de ADO puisse arriver dans Rio, être enregistré par la commune, puisque ça reste un acte, l'enregistrement de la demande, l'enregistrement du dépôt reste un acte de la responsabilité de la commune, et une fois, ça sera envoyé dans Plateau. C'est un outil qui est développé par les mêmes équipes que les équipes qui développent Plateau, donc bien évidemment, c'est pour répondre à notre auditeur, bien évidemment, les dossiers seront traités dans Plateau. Et puis de Plateau, ils seront envoyés dans ADS 2007, qui est l'outil historique et maison des directions départementales pour pouvoir être instruits. L'objectif est effectivement qu'on puisse déposer des demandes dématérialisées, même dans ces communes qui sont des communes rurales, mais qui peuvent avoir une vie et des évolutions en matière d'urbanisme.
On a le temps pour une dernière question, Michel.
Si c'est la dernière question, je poserai bien une question sur le plan de relance, sur le plan France Relance, dont des possibilités de financement avaient été évoquées lors de la dernière émission. Est-ce que les choses avancent?
Alors, les choses avancent, c'est sûr. Il y a en particulier organisé par la direction interministérielle du numérique un webinaire de 15h à 16h, jeudi prochain. À l'origine de ce webinaire, il y a le programme qui s'appelle le programme Décante, que mène la DINUM avec les collectivités, en tout cas leurs représentants, les collectivités territoriales, mais cette fois-ci toutes les collectivités territoriales. Le programme Décante, c'est le programme pour le développement concerté de l'administration numérique territoriale. Donc si vous tapez ces mots, vous allez forcément trouver la page et le fait que vous pouvez accéder, demander une invitation pour ce webinaire.
C'est ouvert à tous ?
Ah, je pense que c'est ouvert à tous, voilà. Et surtout, ça va donner lieu, c'est un webinaire pour expliquer le dispositif qui sera mis en œuvre. Et après, il y aura un dispositif dans le cadre de la transformation numérique des territoires qui permettra... Alors là, je ne peux pas le certifier, mais je pense qu'il va permettre que les collectivités puissent faire des demandes de financement sur des appels à projets, dont la dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme. Pour l'instant, l'adresse qui est pour avoir des contacts, l'adresse qui est donnée, c'est decant@modernisation.gouv.fr. Si vous voulez plus de renseignements, je pense qu'ils seront en capacité de vous renseigner ou de vous renvoyer sur le site une fois que celui-ci sera ouvert.
Et on vous remettra l'adresse dans les commentaires dans quelques instants, histoire de les retrouver. Eh bien, on va conclure sur ce webinaire, car malheureusement, le temps est écoulé. Il va vraiment falloir qu'on la fasse, cette émission spéciale questions-réponses hein, sur le programme des maths ADS, puisque à chaque fois, il y a beaucoup d'interrogations sur le sujet. Jean-Baptiste, vous voulez conclure ?
Oui, je voulais juste dire que le prochain rendez-vous, c'est le 26 janvier.
Eh bien, le rendez-vous est pris.
Voilà.
Alors, il y aura quand même d'autres numéros du MAC de l'urbanisme, oui. De l'aménagement et du logement avant. Ça ne mange pas de pain. Vous pouvez également venir nous rejoindre dès la rentrée. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Baptiste Lannes, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur du programme de dématérialisation de l'application du droit des sols, le programme DEMAT ADS pour les intimes. Merci à vous, Michel Félèb, d'avoir été avec nous également pour répondre aux questions. Je rappelle que vous êtes chargé de mission animation territoriale DHUP. DGLN. Je vous rappelle à vous, auditeurs, en vous remerciant évidemment de votre écoute et de votre fidélité, que vous pouvez retrouver toutes les émissions consacrées au programme des maths ADS ou pas d'ailleurs sur le site de Radio Territoria. Elles sont disponibles en podcast, alors n'hésitez pas de quoi vous renseigner en tout cas pendant les congés de fin d'année. Je vous souhaite une très bonne journée et puis ben, je crois que c'était notre dernier numéro pour l'année 2020. Alors je vais en profiter pour vous souhaiter à tous de bonnes fêtes.
Merci Johanna, à vous de même.
À bientôt sur Radio Territoria.
Et à l'année prochaine.
Merci, bonne fête à tous.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec les ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, à réécouter et télécharger sur Radio Territoria et sur toutes les plateformes d'écoute habituelles.